Quatrième partie. Au fourneau le lac. Chapitre 86. Ce lundi-là, dans l'avion, Luther Tillman passa le temps en lisant l'un des cahiers à spirale dans lesquels Cora Gunderson avait consigné sa prose. Il crut deviner qu'il contenait les derniers écrits de l'enseignante, au fait qu'une centaine de pages restaient vierges, contrairement aux autres recueils. Il fut, une fois de plus, captivé par l'imagination de Cora. Jusqu'à ce qu'il découvre, au milieu du volume, deux pages rappelant le journal que Rob Stassen et lui-même avaient trouvé sur la table de la cuisine de la morte. Les phrases qu'elle répétait de façon obsessionnelle de son écriture méticuleuse méritaient une interprétation. Mais il se promit d'y réfléchir plus tard, car l'avion atterrissait à Louisville. Luther loua un 4x4 Chevrolet, rallia en 2 heures Morning Dove, à une quinzaine de kilomètres de Haut-Fourneau-le-Lac, et prit une chambre dans un motel familial du cru, portant pompeusement le nom d'auberge. L'hôtellerie était de meilleur niveau à Haut-Fourneau-le-Lac, mais le nom de Luther risquait d'attirer l'attention de Booth Hendrickson et du ministère de la Justice s'il apparaissait sur le registre des clients du grand hôtel. Luther choisit un manteau noir, une chemise et un pantalon gris pour sa première visite à Haut-Fourneau-le-Lac, en espérant que cette tenue simple lui permettrait de manger au restaurant du grand hôtel. Le Haut-Fourneau, qui avait donné son nom au lieu au XIXe siècle, nécessitait pour son fonctionnement de grandes quantités d'eau. Après avoir connu son zénith en 1830, la ville avait perdu de son lustre au siècle suivant, et le Haut-Fourneau avait disparu depuis longtemps, laissant place à un village plein de charme, aux rues plantées de cyprès magnifiques, aux feuillages parfumés, tel que Luther n'en avait jamais vu dans le Minnesota. Pendant 1 heure et demie, avant que les boutiques ne ferment les unes après les autres, il se promena dans le centre-ville en discutant avec les commerçants, tous affables. Au besoin, il se présentait comme Martin Moses, un organisateur d'événements originaire d'Atlanta. À 18 heures, il parcourut les quelques kilomètres qui le séparaient du grand hôtel, où il fut accueilli par un employé en livrée noire, rehaussé d'épaulettes et de boutons dorés, qui s'occupa de sa voiture de location avec le même empressement que s'il était arrivé au volant d'une Rolls. L'établissement, inspiré de l'architecture de Frank Lloyd Wright, était un immense bâtiment en pierre de 2 étages, au toit d'ardoise à débordement en pente douce, habillé de balcons en encorbellement, dont les baies vitrées étaient bordées de motifs géométriques colorés. À la tombée du jour, ces ouvertures brillaient d'un éclat presque mystique, comme si la clientèle côtoyait en ses murs des dieux antiques descendus de leur panthéon. L'intérieur, plus extraordinaire encore, formait une suite de détails à la fois simples et ravissants, à l'image des plafonds satinés de couleur cerise et des sols en quartz clair que rehaussait une bordure de granit noir. Le personnel du restaurant servait en smoking. Des bougies brillaient sur les tables dans des coupes en cristal de baccarat, dessinant des prismes argentés sur les murs de la pièce, tout en jetant une lumière sensuelle sur les amaryllis écarlates dans leurs vases ronds. La nourriture était délicieuse, le service impeccable, le serveur amical. Lorsque Luther précisa qu'il réglerait son dîner en liquide, personne ne lui fit comprendre qu'il commettait une faute de goût en cette époque où le billet vert avait cédé la place au plastique gold ou platinium. Comme l'employé en livrée chargé de garer les voitures n'était pas débordé, Luther en profita pour discuter quelques minutes avec lui. L'homme, le verbe facile, connaissait l'histoire de la ville sur le bout des doigts. De retour dans son motel de Morning Dove, Luther accrocha son manteau dans le placard avant de se laver les mains dans la salle de bain.
« C'est quoi cette histoire ? »
murmura-t-il en se regardant dans la glace. Il se laissa tomber dans le fauteuil de sa chambre, face à la télévision éteinte, et prit le temps de réfléchir à cet endroit qu'il avait regardé avec l'œil de l'enquêteur, et non celui d'un simple touriste. L'absence de poteaux électriques et de téléphone signalait que tous les fils étaient enterrés, ce qui n'était pas courant pour un village en pleine campagne. Cela pouvait néanmoins s'expliquer par la volonté des habitants de rendre le lieu plus attractif aux yeux des touristes. Les rues étaient d'une propreté tout aussi inhabituelle. Il fallait croire qu'un balayeur emboîtait à tout moment le pas des touristes, prêt à ramasser le moindre emballage de chewing-gum. On aurait pu croire les trottoirs passés à l'aspirateur tant ils étaient rutilants. C'est tout juste si l'on remarquait quelques aiguilles de cyprès dans les caniveaux. Les propriétaires d'immeubles devaient avoir recours au service d'elfes industrieux. Les boiseries auraient pu être repeintes la veille. On n'apercevait nulle part des graffitis. Les joints entre les briques ou les pierres étaient impeccables. Pas une vitre fêlée, tous les carreaux étaient d'une propreté exemplaire. Quant aux vitrines des magasins, elles étaient rangées avec un tel soin que commerçants et vendeurs devaient être atteints de maniaquerie aiguë. Les gens que Luther avait rencontrés, évocateurs des personnages désuets des séries télé d'autrefois, paraissaient si normaux que c'en était anormal, avec leur tenue propre mais ordinaire, leur politesse exagérée. Dans n'importe quel autre site touristique comparable, Luther aurait remarqué une vendeuse distraite par un problème personnel, un galeriste gentiment snob, un serveur de mauvaise humeur. Ce n'était pas le cas à Haut-Fourneau-le-Lac, où tout le monde brillait par son efficacité, sa compétence, son amabilité et le bonheur d'être là. Luther en arrivait à la conclusion que tout le monde dans le village avait un secret à cacher, tout en ayant conscience de l'absurdité d'une telle affirmation. Comment 600 personnes pouvaient-elles partager un même secret? C'était tout simplement impossible. Et puis quel secret? Le fait de tous consommer la drogue du bonheur? Un autre détail l'intriguait. En dépit de leur courtoisie, aucun de ceux dont il avait croisé la route ne paraissait joyeux. Loin d'être heureux, ces gens semblaient baignés dans une atmosphère de contentement fade. En s'étant troublé, le contentement était peut-être la recette du bonheur, mais l'universalité même du phénomène semblait curieuse. Pour avoir pris la peine de se promener dans les rues adjacentes, il avait pu constater que les maisons étaient aussi rutilantes que les commerces de Main Street. La ville tout entière était un décor de cinéma, et il se demanda s'il aurait trouvé une coquille vide derrière ses façades parfaites en poussant la porte d'une maison.
« Tu dérailles, mon vieux, » dit-il à voix haute.
Autre étrangeté. S'il avait vu des touristes penchés sur l'écran de leur smartphone, aucun des habitants ne semblait posséder de portable, qu'il s'agisse des commerçants ou des employés, pas même pendant une pause. À l'heure de la frénésie technologique, cette absence de moyens de communication signalait un fonctionnement extraterrestre. Luther, tout en n'envisageant pas de se servir d'une arme lors de son périple, avait pris la précaution d'emporter dans ses bagages son calibre 45 Champion, un holster et deux chargeurs de rechange. Il sortit le pistolet de sa valise et le chargea, puis il s'empara du cahier à spirale de Cora et se pencha sur les deux pages qui l'avaient intrigué pendant le vol. Tout en lisant et relisant les morceaux de phrases que l'enseignante avait répétées de façon frénétique, il jetait de fréquents coups d'œil à l'arme posée à côté de lui, se félicitant de l'avoir emportée.